Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Et si on se faisait un petit chroniqueur de vacances? Ça peut pas faire de mal, comme on dit sur une autre radio. Alors je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur ce qu'on appelle l'art. À quoi ça sert? Qui sont les artistes? À quoi ils rêvent? Etc, etc. Et puis pour commencer, eh ben, on va écouter une grande artiste que j'aime beaucoup, beaucoup. Francesca Solville.
Le marronnier du jardin, trois générations réunies. On a déjeuné, on est bien au soleil de l'après-midi. Grand-mère, sans élever la voix, me raconte comment autrefois elle a rencontré son mari en 1900 en Italie, dans une assemblée militante. Elle était déjà, elle aussi, celle qu'on insulte et qu'on envie, une femme, une combattante. C'est la même lutte aujourd'hui. Sous le marronnier du jardin, générations réunies. On a déjeuné, on est bien au soleil de l'après-midi. Ma mère à son tour se souvient de ce monsieur si beau, si bien, qu'elle avait épousé naïve. Ce sont des choses qui arrivent et qu'elle a plaquées un matin parce qu'il trouvait déplacé qu'une femme aille manifester pour changer le monde et la vie. C'est la même lutte aujourd'hui sous le marronnier du jardin. Générations réunies, on a déjeuné, on est bien au soleil de l'après-midi. Et moi, je suis de même race, je ne me tiens pas à ma place, je n'attends pas que ça se passe. Quand il faut, je prends la parole, quand je ne l'ai pas, je la vole. Il n'y avait pas besoin de le dire, on s'est contenté de sourire, toutes les trois n'ayant l'air de rien, sous le marronnier du jardin.
Quoi donc rêvent les artistes? Fortune et gloire? Certains croient sans doute que tout ça va ensemble, même si on se doute bien que le bonheur n'est pas forcément de la partie, comme le prouvent les statistiques de suicide dans le showbiz, par exemple. Fortune et gloire ne sont que des objectifs matériels, c'est-à-dire qu'ils n'ont à peu près rien à voir avec l'art. L'art, ça serait plutôt de la sueur et des larmes, de la ténacité, du courage et une solide aptitude à l'autocritique. Faut jamais se dire « ça ira comme ça », alors qu'on sent très bien qu'on n'a pas atteint le but que l'on cherchait. Faut jamais se contenter de la médiocrité alors que l'on sait pouvoir arriver au but. Parce que l'art, c'est le plus souvent ce qui nous permet de nous prouver de quoi nous sommes capables, en nous réconciliant avec nous-mêmes, surtout quand une éducation frustrante nous a persuadé qu'on n'y arriverait pas. On prend alors conscience de nos qualités, de nos dons. L'art, c'est ce qui nous permet de nous exprimer affectivement et politiquement, de communiquer avec les autres grâce à la confiance en soi retrouvée et à ses réalisations. L'art porte témoignage. Il est donc souvent politique et fondement historique même. Il n'y a qu'à voir la peinture espagnole. Et puis, il faut que je vous parle de Delacroix. Eh bien, j'ai découvert Delacroix, figurez-vous, cette année, en vous préparant l'émission d'Éric Villard sur la Révolution. La couverture de ce petit livre était une photo d'un fragment de « La liberté guidant le peuple ». Vous savez, cette immense fresque avec la liberté, tout néné à l'air, qui brandit le drapeau et qui harangue la foule et les révolutionnaires. Voilà. Bon, on a tous ce tableau dans la tête. Mais on voit l'ensemble, on voit surtout cette femme qui embarque tout le peuple avec elle. Et puis on ne fait pas attention au reste. Et ce petit livre, j'ai oublié le nom de l'éditeur là, je vais me faire taper sur les doigts. Ce petit livre reproduit donc en couverture un visage d'un soldat. Et alors ce visage est prodigieux. Il est vraiment prodigieux dans le regard, dans la bouche, parce que c'est là l'expression de toute une personnalité et d'une émotion. Dans le regard et dans la bouche, il y a tout. Il y a l'enthousiasme, il y a la joie, il y a la peur aussi. Il y a aussi un peu la cruauté. Il y a tout, on trouve tout dans ce regard. C'est absolument prodigieux. Et moi, Delacroix, je n'appréciais pas. Je parlais à l'imparfait, ce sera plus prudent. Je n'appréciais pas les grandes fresques, les couronnements de machin et la guerre de ceci et de cela. Ce sont des travaux qui sont des commandes, etc. Et ça fait l'histoire, bien entendu, mais ça ne me touchait absolument pas. Et bien là, j'ai ce visage de soldat dans la tête et ça, il ne va pas s'effacer. C'est une merveille. Voilà pour l'aspect historique de l'art. L'art, c'est aussi ce qui nous permet de nous évader des tâches obligatoires, accompli sous ordre, hélas, obligatoire et alimentaire. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'un artiste ou une artiste sommeille en chacun de nous. Alors ça, c'est mon refrain, je vais vous le ressortir deux ou trois fois et plus que ça les autres jours. C'est une pulsion, un élan vers autre chose qui nous pousse à nous surpasser. Alors même si je déteste le football, je n'oublie pas cette citation étrange et remarquable d'un entraîneur célèbre qui qualifiait d'œuvre d'art les coups de pied miraculeux de quelques joueurs. Et c'est une de nos différences d'avec les animaux. Nous avons tous un potentiel artistique. Il faut seulement le développer. Il nous faut entrer en art en essayant, quel que soit le domaine, pourvu qu'on en ait envie. Voilà, c'est l'art et la création artistique, ça ne peut exister que si on en a envie. On ne peut pas être contraint. Oui, il y a des commandes alimentaires aussi, c'est sûr, mais c'est rarement là que sont les plus grands chefs-d'œuvre. C'est encore une opinion personnelle, mais bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour ça. On peut faire un chef-d'œuvre à 15 ans ou à 60 sans avoir jamais appris. Simplement parce qu'il y a eu un déclic, une opportunité, un défi peut-être. Et hop! Ce sexagénaire, à qui on avait offert un assortiment de tubes d'acrylique, et qui s'est lancé dans l'aventure, sans aucune technique, sans image, sans modèle, sans filet. Et le résultat, ça n'était que des travaux originaux. Aucune copie, aucune. Alors que même aux Beaux-Arts, on se fait les dents et les mains en copiant. Les résultats que j'ai vus étaient et sont toujours renversants, d'originalité et de poésie. Le chat qui traverse la rue d'une cité la nuit, la lessive qui sèche au vent et au soleil dans un jardin devant la maison. Et ce gars ne plantait pas son chevalet dans la nature comme Gauguin ou Van Gogh, il avait tout dans la tête. Il a toujours, je pense. Ça donne une idée de la quantité de rêves inassouvis qui trouvaient là leur aboutissement. et il n'avait jamais tenu un pinceau avant 65 ans.
Ceux qui n'ont inventé ni la poutre, ni la boussole. Ceux qui n'ont jamais su dompter ni la vapeur, ni l'électricité. Ceux qui n'ont exploré ni les mers, ni le ciel. Mais ils savent, en ces moindres recoins, le pays de souffrance. Ceux qui n'ont connu de voyage que de déracinement. Ceux qui se sont assoupis aux agenouillements, ceux qu'on domestiqua et christianisa, ceux qu'on inocula d'abattardissement. Tam tam de main vide, tam tam inane de plaies sonores, tam tam burlesque de trahison d'habit. De petits matins de chaleur et de peurs ancestrales. Par-dessus bord, mes richesses pérégrines, par-dessus bord, mes faussetés authentiques. Mais quel étrange orgueil, soudain, tout m'illumine. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tée d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle trouve l'accablement opaque de sa droite patience.
Et ce monsieur, c'est Lamine Conté, qui nous parle de l'Afrique, bien sûr. Et j'en reviens à mes artistes imprévus. La gamine, plus rusée, qui pique la boîte de peinture de sa sœur aînée pendant que toute la famille est à la messe, et s'attaque, excusez du peu, au Christ de Rembrandt. La tête seulement, bien sûr. Et le réussit. Et attend, sans un mot, les réactions qu'elle suppose indignées devant le sacrilège contre le droit d'aînesse. Rassurez-vous, le lendemain, la gamine a eu sa boîte perso. Et avec le temps, elle a appris à faire autre chose que des copies. Et ma coiffeuse qui a découvert dans un cours d'adulte une technique stimulant la créativité, inspirée, je pense, de Rorschach. Vous savez, ce test dit de la tache d'encre pliée, que l'on fait interpréter au cours des tests d'embauche pour révéler perfidement la personnalité des candidats. Eh bien, à partir de là, une école fait faire aux élèves quelques taches de peinture sur un canson et les fait écraser avec une autre feuille. Et fait réfléchir les participants sur le résultat, sur ce que ça évoque pour eux, en eux, et les laisse modifier ces tâches écrasées au hasard de leur imagination. À la maison, j'ai un des résultats de cette technique, et c'est un vrai bonheur. C'est l'œuvre de ma coiffeuse qui l'a baptisée la Péruvienne. Avec quelques coups de pinceau heureux, les quelques taches de peinture fauve sont devenues une maternité ensoleillée. Alors je me répète, je vous avais prévenu, il y a un artiste au fond de chacun de nous. Tout le monde est artiste sans le savoir, car tout le monde a une attirance pour quelque chose de particulier qu'il trouve beau, tout simplement. Les fleurs, les étoiles, la mer, la montagne, les visages, les animaux, ou des abstractions, les nuages, les merveilleux nuages. Ou encore même des objets usuels. Je me souviens d'une publicité intelligente pour de la coutellerie ou orfèvrerie où le propriétaire de la marque racontait qu'on s'était moqué de lui enfant parce qu'il dessinait des fourchettes et des cuillères. En lui disant que c'était pas comme ça qu'il allait gagner sa vie. Eh bien, non seulement il gagne sa vie et très bien, mais il est heureux. Parce que quand on fait une œuvre d'art, on est heureux. Il est devenu l'un des meilleurs designers de la coutellerie moderne. Il y a d'autres artistes qui travaillent dans l'esthétique de notre environnement. Les architectes, les couturiers. Ce sont des sculpteurs, les couturiers. C'est prodigieux ce qu'ils peuvent faire. Les ébénistes, les designers de l'automobile, etc., etc. Alors tout à l'heure, je vous disais que on faisait des copies aux Beaux-Arts pour apprendre. Eh ben oui, mais c'est une technique, c'est un moyen, c'est pour apprendre et pas pour autre chose. Parce que l'art est une création et jamais une copie servile. Si on ne fait que copier toute sa vie, eh bien, c'est qu'on n'a rien à dire. Rien à dire de personnel. On veut prouver qu'on est capable de faire ou de refaire, mais finalement, on n'a rien à dire. Ou alors, on manque de maturité. C'est pourquoi je vous dis, on peut se mettre à créer très tard et en ayant appris par copie pendant longtemps. Voilà. Mais bon, les copies, faut pas rêver, c'est pas facile. Alors, c'est sûr que les plus grands ont parfois été inspirés par des œuvres d'autres artistes, hein, en particulier Picasso et Salvador Dali. Mais ils les ont interprétées, modifiées à leur façon, pour des résultats complètement différents et de signification tout autre. Hein. Dali s'est amusé comme un petit fou. Et si aux Beaux-Arts on s'exerce à faire des copies, ce ne sont que des exercices et pas autre chose, pour apprendre et découvrir les techniques indispensables. Mais, il faut bien se dire et être prévenu que copier, c'est pas facile. C'est même un supplice pour arriver à faire de bonnes copies qui soient pas ridicules. C'est un vrai esclavage. C'est parfois décourageant. Et c'est là qu'une école de dessin aidera en donnant les bonnes recettes. Et si la difficulté est trop grande, au lieu de tout envoyer promener et de renoncer, on peut glisser à partir du modèle choisi vers quelque chose de personnel, aussi différent que possible. C'est pour ça qu'il est capital de s'initier dans les musées et les expositions, dans les ouvrages spécialisés. Mais attention, il faut absolument qu'il soit de bonne qualité. Vous avez des éditions de poche qui ne sont pas fameuses, des éditions de vulgarisation distribuées par des éditeurs qui font que du fric avec des fiches et des trucs comme ça. Non, il faut absolument que ça soit de bonne qualité, parce que si vous vous mettez à copier, je sais pas moi, un Nutrio ou Rembrandt bien sûr, mais bon, si vous voulez recopier des grands à partir d'une mauvaise photo, vous aurez perdu votre temps et quand vous en apercevrez, vous serez très découragé. Ça, faut éviter. Travailler pour rien, c'est malheureux, quoi. Mais sur Internet, vous aurez les bonnes couleurs. Voilà. C'est une des raisons pour laquelle la matière dite histoire de l'art est si importante dans la formation, dans les écoles de dessin et aux beaux-arts en particulier. Et puis, pour se former, les choix personnels sont importants, parce que c'est plus motivant quand même de se mettre au travail à partir de ce qui nous touche le plus, de ce qui nous séduit vraiment, de ce qu'on a envie de travailler, plutôt que d'exécuter un thème imposé. Alors ça, c'est mon côté anard, hein, mais oui, les artistes sont très souvent des anarchistes. C'est un des problèmes des écoles de dessin qui ne peuvent guère fonctionner qu'avec des thèmes imposés pour organiser des cours collectifs, qui sont pourtant nécessaires et où on apprend beaucoup. Eh ben alors, en sortant du cours, faut faire ce dont on a envie, faut poursuivre les exercices personnels en même temps. Et puis on va retrouver Francesca.
Là, face à la porte en fer, l'une restait debout, cinq assises par terre, huit enfants étaient là, face à la porte en fer, et leur bouche ignorait encore le sourire. Six femmes étaient là, la porte en fer, et des regards de djinns brillaient parmi les langes. Six femmes étaient là, face à la porte en fer, leurs cheveux avec soin noués comme un secret. Huit enfants étaient là, les paumes de ses mains. Un gendarme était là, face à la porte en fer. Longue est la faction, la chaleur est d'enfer. Un cheval était là, face à la porte en fer. Un pauvre canasson était là, face à la porte en fer. Il avait le poil jaune et le museau très noir. Il y avait dans les paniers des poivrons verts, du charbon dans les sacs, de l'ail dans les besaces. Côté noble champ, et si tu n'étais pas l'une de ces six femmes, moi j'étais à coup sûr parmi les 500.
me suis quelquefois demandé pourquoi les portes des prisons étaient toujours métalliques. Peut-être parce qu'on ne peut pas les enflammer. Et on va revenir à notre apprentissage artistique. Il y a une très 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 bonne école de dessin. Je dis bien de dessin et pas de peinture, encore que faut d'abord dessiner, en principe. C'est la bande dessinée. Elle apporte toutes les solutions sur un plateau, ou plutôt sur chaque page, dans chaque vignette. Vous allez y trouver toutes les expressions possibles des êtres humains et même des animaux. Bien sûr, il y a des dossiers techniques et des cours de dessin sur Internet pour découvrir les petits trucs, le tout petit coup de crayon qui fait sourire, rire, pleurer ou hurler un personnage. Mais la BD apporte déjà tout ça. Alors, pour bien découvrir les petits détails, étant donné la taille en général des vignettes, eh bien, faut y aller avec une loupe, et puis une bonne loupe. Et vous découvrirez les techniques. Quand on arrive à utiliser ces trucs professionnels en faisant un portrait d'après photo, où les ombres retracent finalement les coups de crayon que l'on va donner, les coups de crayon de la BD, si vous voulez. Quand on a réussi à utiliser ces trucs, eh bien ça y est, on a gagné, on a trouvé. On peut tout faire. Un autodidacte peut mettre des dizaines d'années à être opérationnel. Mais en partant de la bande dessinée, on peut aller très vite. Si on est très observateur. Très observateur et méticuleux. C'est pourquoi il faut aller dans les musées et il faut être très exigeant avec soi-même. Alors, maintenant, pour apprendre et puis pour se donner confiance en soi, je reviendrai à la technique de la copie. Alors, il y a un tableau qui vous plaît. Vous ne savez pas par quel bout l'attraper, par quel bout commencer ? En haut à gauche, en général, on fait ça. Mais la méthode la plus sûre, la moins décourageante, c'est de diviser l'image, la photo que vous aurez, la diviser en carrés. Mais vous avez déjà vu ça, je pense. C'est une méthode très connue. C'est bien parce que c'est tout à fait encourageant. Quand on a fini un carré, on regarde, et oui, on y est arrivé. On y est arrivé pour ce carré-là. Alors, on attaque le carré à côté et on continue. Et comme ça, ça marche. Parce que si on se jette sur une œuvre, sur un tableau qui fait, 30 par 40 ou ne serait-ce que 40 par 40, bon, c'est un format moyen. Eh bien, on le trouve très très grand, hein, je vous assure, même si c'est un format moyen, quand c'est les premiers travaux que l'on attaque, on trouve ça très très grand, immense même. Et surtout, on ne sait pas par où commencer. Donc la méthode des carrés, ça peut faire sourire, mais ça ne fait jamais sourire les professionnels, ils sont tous passés par là. Et ça permet une chose capital, ça permet de respecter les proportions. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est sûr que ça fait un peu bricolage, mais il faut appliquer les bonnes recettes pour arriver à des bons résultats. Hein, c'est tout simple. Maintenant, si vous vous attaquez à un paysage, si vous voulez faire un paysage, que vous soyez dans la nature ou que vous vouliez reproduire une photo que vous connaissez ou que une image que vous avez dans la tête. Alors le truc tout bête
que vous pouvez vérifier en regardant toutes les illustrations possibles, c'est que la lumière est toujours au fond. Au fond, quelquefois au milieu, mais pas forcément. Il peut y avoir des travaux très intéressants, décentrés, c'est tout à fait possible. Mais la lumière est au fond. Et au premier plan, vous avez la zone la plus foncée, qui est éclairée par quelques... pour montrer le relief, je ne sais pas, de rochers, d'herbes, etc., d'arbres. Mais le premier plan est le plus foncé. Et puis, selon les collines, les montagnes, etc., eh bien, vous avez les différents reliefs. Les différents plans s'éclairent quand on va au fond du tableau. Alors, le plus facile en matière de paysage, c'est les montagnes. Parce que les montagnes, ben, on est libre. Hein, la montagne, par définition, elle est naturelle. Donc, on ne va pas critiquer telle couleur sur la montagne ou telle ombre ou telle forme bizarre. Non. La nature a toutes les formes, donc vous êtes complètement libre. Et en mettant le fond éclairé, eh bien, je vous promets, c'est inratable. J'avais fait faire ça à des enfants, ils n'en revenaient pas, et les parents non plus. Et voilà, et j'espère que les enfants en question ont continué. Ce qui est le plus difficile dans les paysages, c'est les mouvements d'eau. Alors ça, évidemment. Mais il y en a des qui se jettent là-dessus. Et parfois avec bonheur, oui. Le sexagénaire dont je vous parlais tout à l'heure, il avait commencé par là. Et moi, je le regardais du coin de l'œil et je me disais, il ne va pas s'en sortir. Eh bien, si, il s'en est sorti. Bon, maintenant, il n'y a pas que le dessin et la peinture, il n'y a pas que ça. Bon, la peinture, je pourrais peut-être vous en reparler une autre fois. Oui, la peinture, c'est... Oui, je vous en parlerai une autre fois. Il y a des instruments insolites pour peindre. Et aussi, il faut savoir qu'on peut absolument peindre de toutes les couleurs, tout ce qu'on veut, avec toutes les couleurs, même farfelues. Le problème n'est pas là. À part donc le dessin et la peinture, eh ben, les artistes s'expriment aussi en écriture, en prose ou en poésie. On pourra en reparler en détail. J'aimerais bien vous décortiquer, vous donner les vraies recettes tout à fait techniques et aussi inratables en matière de poésie en particulier. Mais que ce soit de la prose ou de la poésie, le plus important dans l'écriture, c'est le rythme. C'est le rythme, c'est pourquoi il faut lire ce qu'on a écrit, il faut le lire à haute voix. C'est ce que Flaubert appelait l'exercice du gueuloir quand il écrivait ses œuvres solides et un peu, j'allais dire vertigineuses, c'est pas le mot, mais tellement expressives. Pour voir si ça marchait, il allait dans une pièce particulière chez lui qui devait résonner un peu et il gueulait. Il lisait ses phrases, ses différentes phrases, il les lisait en gueulant. Et ça, effectivement, c'est le super test. On ne peut pas gueuler, on ne peut pas dire très fort un mauvais texte. Il ne passe pas. Il ne passe pas, ce n'est pas possible. Si vous faites des phrases kilométriques qui ne sont pas coupées comme il faut, avec des virgules ou des points-virgules, de façon à reprendre le souffle, etc., ça ne peut pas marcher. Donc, le gueuloir vous signale tout simplement les erreurs de rythme. On peut parler aussi de sculpture. Alors la sculpture, pour les gens qui démarrent, on croit, j'ai cru bêtement, que le cyporex par exemple, parce que c'est léger et que ça se creuse facilement, on croit que c'est plus facile. Eh bien oui, mais léger et qui se creuse facilement, ça veut dire frayable et cassable. Alors quand vous aurez bousillé des mètres cubes de Cyporex, eh ben vous irez peut-être travailler tout simplement la terre. Mais ça ne veut pas dire que le Cyporex c'est inaccessible, si. Je connais des gens qui travaillent très bien le Cyporex, mais il ne faut surtout pas être pressé. C'est un travail de sculpture tout à fait particulier. C'est un travail très très lent. Il y a beaucoup de travail au papier de verre. On lime beaucoup parce que le travail au papier de verre, ça ménage le matériau. Tandis que le couteau, évidemment, ça l'agresse et c'est comme ça qu'on casse tout. La terre, pour travailler la terre, on le sait en général, à l'intérieur d'une sculpture en terre, il y a toujours du vide. Et il faut ménager un creux. Alors vous pouvez le ménager n'importe comment, vous pouvez faire des tortillons de fil de fer et puis étaler votre terre par-dessus le volume, le petit volume que vous aurez ménagé en fil de fer. Il y a aussi des plastiques qui prennent les formes que l'on veut quand on les trempe dans l'eau chaude. Et là, vous faites un cône, vous faites n'importe quoi. La forme du vide qu'il y aura à l'intérieur de la statue, elle n'a pas d'importance. Mais c'est simplement que ça permet d'éviter l'éclatement au séchage et à la cuisson. Voilà. Donc, bien se souvenir que toutes les statues sont creuses. Bon, maintenant, la sculpture, ça fait rêver tout le monde parce que c'est la libre expression en 3D. Et ça, évidemment, il n'y a rien d'autre qui va pouvoir le fournir. Et il faut savoir aussi que on peut sculpter, pas seulement avec de la terre ou du Cyporex, mais moi j'ai acheté à des amis de la Garonne, j'ai acheté un héron qui est une merveille et qui est fait avec du fil de fer habillé avec des tissus drapés. Et mon héron, il est superbe, il est absolument superbe. Et l'artiste a fait ça avec des bouts de chiffon de rien du tout, que sa femme aurait jeté, il a récupéré ça, et il a fait un héron. Alors évidemment, la base est en fil de fer. Et il a habillé le héron. Et il est superbe. Voilà. J'avais acheté aussi une fois une poule. C'était une lampe. À l'intérieur du ventre de la poule, il y avait une ampoule. Et le corps, la tête, les ailes, etc., c'était une poule assise. Et le corps était fait en fil de fer. C'était assez rigolo et inattendu, et ça fait une lampe tout à fait originale. Mais bon, en général, je crois qu'il vaut peut-être mieux éviter de transformer des œuvres d'art en objet de consommation. Oui, la poule, c'était un peu limite. Mais... vouloir absolument qu'une œuvre d'art ait une utilité domestique, je trouve ça dangereux, voire vulgaire. Alors il y a aussi la photo, bien sûr. Alors la photo, l'intérêt, c'est la photo bien cadrée. Seulement, une photo bien cadrée, si vous prenez du temps pour préparer le cadrage, si vous prenez du temps pour mettre votre modèle comme il faut, comme il veut et comme vous voulez, eh ben, ça ne sera pas naturel. Alors, certainement, les meilleures photos, les grands photographes, leurs meilleurs travaux sont des instantanés. Eh ben, maintenant que vous avez des téléphones à tout faire, ben, vous pouvez essayer, hein. Essayez, mitraillez tant que vous pouvez. Et ce qui est formidable avec les appareils actuels, le numérique, c'est que si vous voulez par exemple peindre un portrait, et bien vous faites avec votre appareil photos, téléphonos, etc. Avec votre appareil numérique, vous faites 10, 20, 30 photos. Vous tournez autour de la personne et il y a forcément, forcément une photo qui sera fabuleuse. Et à partir de là, vous pourrez copier votre photo, mais c'est vous qui aurez fait la photo, donc ça vous appartiendra et ça ne sera pas exactement une copie. Finalement, le travail de peinture sera aussi servile et aussi difficile que si vous copiez un autre tableau, mais c'est vous qui aurez créé la photo. Donc, ça, tout vous appartiendra. Et ça, c'est très satisfaisant. C'est très satisfaisant. Il y a bien sûr la musique aussi encore. Mais alors la musique, là, je crois que sans apprentissage sérieux, les chances sont assez limitées. Sauf à l'orgue. J'ai acheté pour 3 francs 6 sous à Emmaüs, il y a des dizaines d'années déjà, un vieil orgue à mon. Et si vous écoutiez mon petit-fils à l'orgue à mon de la mémé, eh ben c'est un bonheur total. Et il a 8 ans. Simplement, ben faut respecter l'instrument. Et le gamin, il a très bien compris qu'il appuie sur la touche longuement s'il veut un son très long, etc. Il a compris le coup des pédales. Moi, j'avais rien compris du tout. Mais lui, ça lui est venu naturellement. On peut improviser à l'orgue et c'est toujours divin. C'est pour ça qu'on met ça dans les églises. Et puis, la guitare permet d'improviser, mais en fait, je crois que la guitare, ça se transmet de guitariste à guitariste. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse inventer des accords. J'en suis pas sûre. Je suis en train de dire probablement une grosse bêtise. Mais c'est très, très technique, la guitare. Alors, prudemment, d'abord, je ne m'en suis pas trop occupée. Et puis, je suppose qu'un apprentissage sérieux, méthodique et avec astreinte et souffrance assortie est nécessaire, je suppose. Et maintenant, avec vos téléphones portables, vous pouvez même faire du cinéma, vous pouvez faire des vidéos. Ben, vous pouvez essayer. J'ai des amis qui ont essayé avec des résultats plus ou moins heureux. Mais c'est une histoire d'exercice. Hein. Moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir utiliser une caméra. Mais il y a la contrainte des acteurs. Diriger des acteurs, ça je crois que c'est la chose la plus compliquée du monde, parce que maîtriser les actes des gens, c'est un comble. Même pour le cinéma, ça me semble vraiment très difficile. Mais pourquoi ne pas essayer? Si on peut faire des bonnes photos avec un téléphone portable, on doit pouvoir faire des bonnes vidéos aussi. Mais il me semble aussi qu'elles seraient d'autant meilleures qu'elles seraient instantanées et sans préparation. Mais bon, ça, ce n'est qu'un avis personnel.
Wallahi Mariama, Mariana, Maria, Mariama, ah Mariama, Bademe yo balema, sama sope bademe yo balema. Fa
âme noire. Vêtu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vent noir, bouche qui fait lyrique, ma bouche. Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimé. Obscure, huile qu'un ride nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau, délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se noire. De ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel avant que le destin jaloux ne te réduise en cendre pour nourrir les racines de la vie.
Maintenant, est-ce que l'art a toujours pour but la beauté? Il y a l'art du beau, oui, ça c'est sûr, même tellement que on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un art du laid? Est-ce que quelques œuvres où on ne voit pas la beauté, est-ce que ce sont des œuvres d'art? On pense souvent que l'artiste, c'est celui, d'abord, celui qui crée la beauté. Alors celui qui est capable de créer la beauté, à partir de là, il me semble, je dirais qu'il a tous les droits en matière d'esthétique. Il peut se permettre de faire des choses laides, pourvu qu'elles aient une signification. Évidemment, je vais vous parler de Guernica. Et on arrive à l'art militant. Guernica, ou le dictateur, ce sont des choses atroces. Il y a de quoi déprimer terriblement. En regardant Guernica pendant des heures, on fait des cauchemars. Le dictateur, c'est pas joyeux, joyeux non plus. Et pourtant, ce sont des œuvres d'artistes prodigieux qui aide à changer le monde. Je ne sais pas si vous avez vu les œuvres des artistes mexicains, les muralistes.
Diego Rivera, Orozco et David Siqueiros, bien sûr.
Frida Kahlo a fait, autant que je sache, elle a travaillé sur toile essentiellement, peut-être sur bois. Je ne crois pas qu'elle se soit attelée aux travaux muraux. Mais c'est Rivera, c'est Diego Rivera, oui, son mari. Il a fait des choses atroces, Diego Rivera, dans les escaliers de l'hôtel de ville de Mexico. On voit les fresques qu'il a faites et qui sont des pamphlets politiques d'une violence épouvantable. C'est très drôle parce qu'il y a un humour fantastique, mais on ne peut pas dire que ça soit vraiment beau, quoi. Et les travaux de Frida Kahlo, elle-même, personnellement, ils me rendent quasiment malade. Parce que Frida Kahlo était quelqu'un de malade, quelqu'un de génial. Et elle a eu des problèmes de maternité, de gestation. Et elle a illustré ça. Et je pense que ça rend malade toutes les femmes, quoi. Mais c'était un peu une psychanalyse. Je pense, c'est encore une opinion personnelle, ses travaux à elle. Et ça a dû la stabiliser, ça a dû la guérir. Mais ça montre que l'art a de multiples fonctions. L'art militant, l'art thérapeutique. On peut se demander aussi si l'art doit forcément reproduire la réalité. Alors ça, je trouve que pour démarrer, pour s'initier, pour commencer, pour apprendre, on croit souvent qu'il faut copier la réalité. Et maintenant, je suis à peu près sûre du contraire. Je trouve que c'est même une hérésie. Comment voulez-vous copier un arbre? Comment voulez-vous copier vraiment un visage, rendre la réalité d'un visage? C'est la création de la nature, vous n'allez pas vous aligner avec la nature quand même. Vous n'êtes pas. Faut pas se prendre pour. Oui, pour le bon Dieu, si on y croit. La nature elle-même a des possibilités avec lesquelles on ne peut pas lutter. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de copier la nature, on n'y arrivera pas. On peut simplement interpréter, et ça c'est dans nos cordes. Interpréter avec nos moyens, avec notre sensibilité. Mais se désespérer à vouloir absolument copier la nature, à mon avis, on va droit à l'échec. Et ça, c'est désespérant. Je m'étais amusée une fois, sans rien dire, heureusement, je m'étais amusée à voir une dame assez douée qui faisait surtout des fleurs. Et elle a voulu dessiner des personnages. Et elle avait voulu le faire à partir de photos. Elle avait photographié une femme allongée, voilà. Et elle avait voulu la faire en perspective. Et évidemment, elle s'était mise au pied de la personne qui était allongée. Et la photo a fait le personnage avec des pieds énormes et une tête petite. Et l'artiste a un peu réduit les pieds quand même, mais elle m'a dit, mais c'est comme ça, le modèle, il était comme ça. Je ne l'ai pas trop mise en boîte, mais j'ai eu du mal à la convaincre qu'il y avait une erreur d'optique qui était due à l'appareillage d'optique. Et que la personne qu'elle avait photographiée, elle n'avait pas des pieds du 52 et une tête de 20 cm de tour, non. Bon, c'est un peu un exemple barbare et exagéré, mais peut-être ça montre que vouloir absolument copier la nature, c'est une gageure. On va retrouver Francesca.
De moi n'est pas dans ma peau. Mais dans la rocaille adoucie de lièvre. Mais dans le soleil, la menthe, l'air chaud. Le plus beau de moi dans la lumière, vit dans la lumière. Le plus doux de moi n'est pas dans ma peau. S'endort au soir, flamme sans alarme, brûlant longuement au profond de l'eau. Le plus doux de moi, tout hiver des âmes, tout hiver des âmes. Moi n'est pas dans ma peau. Il est en prison, pardon, messieurs, dames, mourant de vouloir le monde plus beau. Pour vous, frères de la terre, en rêvant toujours plus haut que le front, ainsi que le font les fleurs populaires, les fleurs populaires.
Voilà pour aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, si vous me faites l'honneur de quelques podcasts sur mes bavardages d'aujourd'hui, on reviendra sur l'art en ce qui concerne l'écriture. Puis on s'amusera avec les techniques poétiques et un dictionnaire de rimes. C'est très très rigolo, un dictionnaire de rimes. J'ai fait quelques heures joyeuses à mes élèves autrefois en leur faisant travailler leurs improvisations avec un dictionnaire de rimes. Évidemment, ils ont fait rimer fesses avec confesse, et pire encore. Alors, on va s'amuser avec ça, et puis on décortiquera quelques autres techniques. Voilà. Si ça vous dit. Si ça vous dit pas, je vous comprendrai très bien. C'est très technique. Mais voilà, je vous remercie de votre écoute. Et puis, vous pouvez rester avec moi pour découvrir peut-être les meilleures chansons féministes de Francesca.